L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Nous recevons notre ami Ndiaye Sarr dans cette deuxième partie.
Bonjour à tous.
Avec Marie-Claude.
Bonjour.
Ma complice. Alors, Monsieur Sarr, on a parlé de comment vous êtes arrivé à la littérature, vos profs qui vous ont initié. Et mais ça fait partie de ceux qui étaient marqueurs, on va dire. Et là, j'ai bien envie qu'on parle un peu de la littérature mauritanienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, la littérature mauritanienne francophone.
Mmh. Francophone, oui.
Voilà. Alors, c'est une littérature très jeune.
Ouais.
Et d'ailleurs, certaines se posent peut-être des questions où se situe la Mauritanie. Est-ce qu'il y a des écrivains? Mmh. Comment s'appelle-t-il? La Mauritanie, pour préciser, se situe entre deux régions, on va dire, l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Donc c'est un pays, comme le disait le premier président mauritanien, c'est le trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et ces deux régions ont donné de naissance à des écrivains de renom. Tahar Ben Jaloun, Kateb Yassine, Assia Jabbar, Cheikh Hamidou Kane, Tcherno Mounenembo, Hamadou Ampateba. Parce que le plus souvent, les critiques littéraires, en étudiant la littérature, il y a des découpages géographiques. C'est à partir des découpages géographiques. Alors, la Mauritanie, qui est un petit pays de par sa population, 4 millions d'habitants, sur 1 500 km², c'est le pays aux millions de poètes. La Mauritanie est appelée le pays, on appelle la Mauritanie le pays aux millions de poètes.
Oh, oui,
il y a deux grandes communautés. Il y a les arabo-berbères, il y a les négros mauritaniens, les négros mauritaniens qui sont composés de Wolof, de Soninké et de Peul, de Poulard. Donc la littérature mauritanienne francophone est née, donc là j'ai posé le cadre géographique
et
socioculturel un peu de la Mauritanie, est née et très jeune. Le premier ouvrage fictionnel est publié en 1965. Poème Peul moderne, écrit dans sa langue maternelle, en Peul, de Oumar Ba, qui est l'un des pionniers, ensuite traduit en français, paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. Oumar Ba. Ensuite, il va y avoir Jibril Zakaria Sall, qui était commissaire de police, qui va publier Cimetière rectiligne, Soweto, en tant que commissaire de police. Il a eu des problèmes d'ailleurs, justement, par rapport au texte, au poème qu'il écrivait. Soweto, il fait un clin d'œil à la situation qui s'est passée en Afrique du Sud. Donc, la poésie mauritanienne, c'est une poésie qui est ancrée dans, on va dire, mouvement de la négritude. Réhabiliter l'image de l'homme noir opprimé aux États-Unis, en Afrique du Sud et même en Mauritanie, comme je vous parlais tout de suite de la composante négro-mauritanienne. Donc il y a eu dans l'histoire du pays des tensions entre les arabo-berbères et les négro-mauritaniens. Donc la poésie mauritanienne francophone, on va dire, c'est une poésie engagée. Une poésie engagée, Oumar Ba, Jibril Zakaria Sall, Hassan Diallo, là on est dans les années 65, 70, 77. Hassan Diallo qui publie Les Dames. Les Dames, ça veut dire ma terre, mon terroir, c'est un peu Poulard. Et ensuite, il y a Ousmane Moussa Diagana qui est un universitaire, qui a un doctorat d'état en linguistique, qui va publier Cher Guia, ode lyrique à une femme du Sahel, qui va publier Nautile des rêves pour une symphonie amoureuse. Donc, je m'arrête un peu sur Ousmane Moussa Diagana, que je trouve exceptionnel à bien des égards. Et récemment, j'ai participé à un ouvrage collectif sur l'œuvre poétique et linguistique d'Ousmane Moussa Diagana, avec un article intitulé « La poétique de la relation ». dans Nautile des rêves pour une symphonie amoureuse. Donc je vous ai parlé des différentes composantes de la Mauritanie et les tensions politiques, conflits interethniques. Mm-hmm. Et Ousmane Moussa Diagana, en tant que poète, et c'est là où les poètes sont intéressants, en tant que poète, vient proposer des solutions à ce problème de cohabitation conflictuelle entre les différentes, à travers la femme. Cher Guya, c'est une mauresque, la femme de l'Est, l'Est de la Mauritanie, où, on retrouve les différentes composantes du pays, donc la diversité. Donc Ousmane Moussa Diagana, dans Cher Guya, pense que les Mauritaniens, pour renouer les liens abîmés pour des raisons parfois politiques, pour des raisons idéologiques, doivent passer par la femme pour reconstruire ces liens. Et Cher Guya, c'est la femme de l'Est, c'est une mauresque. Et c'est une métaphore, en réalité, pour Ousmane Moussa Diagana. Donc la Mauritanie est, comme on le dit souvent, la beauté d'un tapis, c'est Amadou Ampateba, je pense qu'il le disait, vient de la variété de ses couleurs. Donc Ousmane Moussa Diagana, dans sa poésie, en tout cas, fait l'éloge de la diversité, fait l'éloge de la cohabitation, on va dire, apaisée entre les différentes composantes du pays. Donc c'est un poète qui est dans, on va dire, dans une perspective de possibilité de renouer les liens. Et je trouve sa poésie formidable. Et ensuite, Ousmane Moussa Diagana, il y a Bios Diallo, qui était son ancien étudiant, qui a publié Les pleurs de l'arc-en-ciel. Mm-hmm. Les pleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'en Mauritanie, il y avait en 1989 un incident politique entre la Mauritanie et le Sénégal. Et il y a eu des familles négro-mauritaniennes qui ont été déportées parce que voilà, on pensait que c'était des Sénégalais. Où il faut dire que le président à l'époque avait profité de cet incident pour régler, si vous voulez, la question de l'élite négro-mauritanienne qui revendiquait plus de place à la gestion du pays, qui dénonçait la marginalisation de cette communauté-là. Donc cet incident-là, Bios Diallo reprend cet incident dans Les pleurs de l'arc-en-ciel. Les pleurs de l'arc-en-ciel. Et dans, il a publié un autre recueil de poésie. Presque toute l'œuvre de Bios Diallo porte sur la question de la cohabitation conflictuelle en Mauritanie. Et ensuite, il y a des écrivains, des poètes, des jeunes poètes, Mamadou Lamine Kan, qui a écrit L'enfer d'Inal. Inal, c'est l'endroit où on avait enfermé cette élite révolutionnaire négro-mauritanienne. Et d'ailleurs, Tenis Soufgué va mourir non pas à Inal, mais à Walata, où il a été emprisonné. Il fut emprisonné. Tenis Soufgué, c'est le premier à avoir écrit, c'est le premier à doter à la littérature mauritanienne le roman. C'est le premier à avoir publié un roman en Mauritanie. C'est le premier à avoir publié une pièce de théâtre, Les Exilés de Goumel, en 1975. Et c'est le premier à avoir publié une nouvelle. Et Tenis Soufgué a été arrêté, faisait partie de cette intellectuelle négro-africaine arrêtée. Et d'ailleurs, il va mourir en prison en 1988. Mm-hmm. Donc, une littérature qui s'exprime par la poésie au tout début, les années 1965 jusqu'à 1977, et jusqu'à encore aujourd'hui, il y a de jeunes poètes qui émergent. Et ensuite, le roman. J'ai parlé de Tenis Soufgué. Rella ou les voix de l'honneur, c'est un roman ethnographique qui s'inscrit dans la veine des littératures ethnographiques, qui décrit la société Peul à Kahedi. Donc, il y a les thématiques classiques, modernité, tradition, colonialisme, la place de la femme. Il y a pas mal de thèmes qui sont interrogés dans son roman. Et ensuite, il y a Di Ben Ammar, qui lui est mort, qui a publié « Îlot de peine dans un océan de sable ». C'est un roman également ethnographique qui revient sur la vie des nomades, comment la modernité a bouleversé un peu les habitudes, les façons de faire des nomades. Il y a également « Le dernier des nomades » de El Khassem Oul Ahmeddou. El Khassem Oul Ahmeddou. Il y a toute une production romanesque qui s'inscrit dans la veine ethnographique, où les romanciers mauritaniens décrivaient leur société, leur culture, des rites et des rituels. C'était justement peut-être une façon de montrer comme les premiers écrivains africains, que les Africains avaient une civilisation, avaient une culture. Donc ça, c'était nécessaire de passer par cette étape-là pour le roman mauritanien, la littérature mauritanienne francophone. Et ensuite, il y a le théâtre. Et il y a l'écrivain mauritanien le plus connu extramuros, c'est Mbarekoul Beyrouk, qui a obtenu le prix Ahmadou Kourma en 2015 pour son roman Le tambour des larmes, et qui actuellement est finaliste du Grand Prix du roman métis. Et moi, j'avais lu son texte « Et le ciel a oublié de pleuvoir », qui aborde la question de l'esclavage, qui, comme vous le savez, l'esclavage a été... La Mauritanie est le dernier pays à abolir l'esclavage en 1981. Et l'esclavage a été pénalisé en Mauritanie qu'en 2007, adopté une loi à l'Assemblée générale pour pénaliser l'esclavage. Donc la thématique de l'esclavage, elle est fortement présente dans la littérature mauritanienne francophone. La thématique de la cohabitation conflictuelle entre les différentes composantes du pays, elle est fortement présente dans la littérature mauritanienne francophone. Finalement, comme toutes les littératures, la littérature mauritanienne francophone fait écho aux préoccupations de son époque, de son société. On se rappelle de la phrase de Zola, il me semble, le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Voilà, donc la littérature mauritanienne francophone également interroge les préoccupations de la société mauritanienne. Donc, toutes les questions qui intéressent les Mauritaniens sont convoquées dans la littérature mauritanienne francophone.
Alors, super, parce que là, ce que vous dites tout à l'heure, ce que vous dites, la poésie raconte mieux la littérature mauritanienne. Vous avez appelé la Mauritanie le pays de 1 million de poètes. Et ça me rappelle ce que disait Mamadou Diop récemment à la Biennale, que lui s'intéresse plutôt à la poétique de l'histoire, parce que les poètes racontent mieux l'histoire que l'histoire lui-même. En tout cas, je note ça très bien. Nous allons passer probablement une séquence musicale et nous reviendrons à suite du débat.
Voilà, donc,
et le morceau, c'est Guilao.
Voilà,
Guilao c'est un groupe de jeunes artistes mauritaniens, Maxime et Ambella. C'est une chanson qui fait l'éloge du savoir, de la transmission, de la connaissance, de l'apprentissage. D'accord. Et le tout dans une mélodie
magnifique.
Qui est, on va dire, enracinée dans l'identité peul, on va dire.
Ok, rapidement. C'est parti.
Boko yonti wana yidde yade Njilo waddi gandal waddi mi yilo yade Yo hakilam da wom tunjin mi yade Chalal semina me njilo hata pon mi jade yade Ko gandal hadi farno rede Ko kanyin fadiki yodinu mjin mi sinkorade
Njilo
Yilade yilo yade hanki Yita hande wana na minjo badi jango
Njilo
Kumutude samba jove na chenomi Tijane yane baba baidi wanko njofu nomi for me
Njilo
Yilade yilo yade gande Mamin bitu defte fulbe mami yilo panda men
Yilo
Yilade hatu futa hadi
Wangoi wangade Wangoi wangade Wangoi wangade Wango leli yatima yani Wangoi wangade Wangoi wangade Wangoi wangade
no goitor galwa teme selle nyoten asmi ubulu gita yaaja do dukoy tamper aber meden humpet gurnam dade nafar leggal sib dudal burgal wawde findin wonat ko gurnam metter kelmeje chimtin gondi bronane tanam ko sanjer bambade hot sinke seda data welay nop kedi do kongi
nervi toji tacha mani godde jabo fine to sanuji imbe wadbe ko mi jaado gatul ngol ni makande hore no jango
ma jelliti yoga jelliti leydi an kaddo ma neede hadi ma jangde didi ko keer biltoyde jolde sibar foti
wangoy wangade wangoy wangade wangoy wangade wangoleli yatima yani
wadi sign lidam tino wadi resabko toko wande fan jilaw der bernde basu wante galo madami no nok der men kewani bindi kono jawno take gandal mam yami yilo yosum yitum adda ko danya peccen sibo donne ne wuro modon kore heo peje ronke yo gol tawado en nando ni cier jeer wala wana kerol to men ngajele ko hore ma fam hakile soko jomum nyene we wadde wamba nam taha setanam kudol be hokkadi bindi kedi don
jarama pentam do mi gol jimol wangoy wangade.
Bon, nous revoilà avec notre invité, M. Voilà. Ndiaïssa, qui nous a présenté la Mauritanie sur le plan des poétique, un pays aux millions de poètes. Et nous a dit aussi, ce que vous avez entendu, c'est que les poètes racontent mieux, en tout cas, l'histoire, la littérature. Donc oui, de ces poètes-là qui peuplent la Mauritanie, on va demander à notre invité de nous en dire un peu. Est-ce que parmi ces poètes, parce que je n'ai pas entendu le nom des femmes, alors les féministes, sont-elles absentes de la littérature mauritanienne? Et puis, bien entendu, on va glisser sur le débat sur les féministes.
Alors, oui, il y a des femmes qui écrivent en Mauritanie. Alors, la poétesse la plus connue, en tout cas, à ma connaissance, c'est la seule, Mariam Mint Derwish. Elle a publié en 2014 un recueil de poésie intitulé « Mille et un jeux ». Avant Mariam Mint Derwish, il y avait Aïchatou Hadi, qui a écrit plusieurs romans, des nouvelles, dont je peux vous citer « Le retour impossible ». Aïchatou Hadi, qui a fait son parcours également, comment est passé par l'université Paul Valéry, Montpellier. Ah oui. Elle vit à Paris. Également Safi Ba, qui a écrit un roman, Les Chameaux de la haine, qui revient sur la cohabitation conflictuelle dont je parlais tout à l'heure, Les Chameaux de la haine. Il y a Belinda Mohamed, qu'on peut citer comme écrivaine mauritanienne, qui a également la nationalité algérienne, qui a publié en 2005 cinq romans. Et oui, il y a des femmes qui écrivent en Mauritanie, même si elles ont pris la parole tardivement. Il y a Aïchatou Mint Ahmedou qui a écrit un roman formidable, La couleur du vent, que j'avais intégré dans mon corpus en thèse. Donc il y a une expression féminine dans la littérature mauritanienne et moi j'ai consacré un article à cette question-là qui est disponible en ligne sur la littérature féminine en Mauritanie. Et d'ailleurs dans le cadre du master à l'université de Nouakchott, dont je suis le coordinateur, le master lettres modernes francophones, j'ai un cours intitulé « Littérature féminine au Maghreb ». Voilà. Donc, je suis. Vous avez en face de vous un féministe.
Un féministe. On avait un peu compris. Mais bon, c'est mieux de le dire. Merci. Un féministe mauritanien en plus.
Mauritanien.
Voilà. Donc, pour savoir quand même que.
Et donc, c'est bien qu'on ait en face un féministe. En chemise, on va dire.
Parce que si on part du principe que le féminisme, c'est. C'est de militer pour la condition des femmes, pour que les femmes recouvrent leur liberté, l'égalité. Oui, je pense qu'on est tous, par moments, féministes.
D'accord, oui, absolument. Et donc, ces femmes, ces auteurs que vous avez cités, dans votre corpus, comme vous dites, de thèse, est-ce que vous faites référence à ces femmes qui ont, par leur écrit, participé à la prise de conscience, qui ont participé au rôle... De quoi le rôle que devait jouer la femme dans la société mauritanienne, d'une part, et d'autre part, sur l'ensemble des auteurs que vous connaissez de la Mauritanie, est-ce qu'ils sont tous dans la même révolution que vous décriviez tout à l'heure?
Oui, oui, Aïchatou Mint Ahmedou, que j'ai cité dans La couleur du vent, s'interroge, se pose des questions dans ce roman sur l'inégalité entre hommes et femmes. Elle va même, on va dire... interroger ces questions-là à partir de la perspective religieuse, c'est-à-dire allant jusqu'à donner des exemples, le prophète de l'islam, paix salut sur lui, était juste envers les femmes. Oui, elles se saisissent de ces questions-là, mais je pense que la plus audacieuse, c'est Mariam Mint Derwish dans son recueil de poésie « Mille et un jeux » où elle aborde la question de la sexualité, où elle aborde de manière beaucoup plus libérée. On va dire que Aïchatou Mint Ahmedou, la question de, la condition des femmes dans ce recueil de poésie. Et c'est une première, parce que les Mauritaniens, dans la conscience collective des Mauritaniens, les femmes mauritaniennes sont très bien traitées. Voilà, les femmes mauritaniennes se disent qu'elles sont privilégiées, même si ce n'est pas le cas, parce que récemment, il y a eu un projet de loi qui avait été soumis à l'Assemblée générale sur la violence faite aux femmes de façon générale, mais rejetée à deux reprises. Il y a eu même des imams conservateurs qui se sont levés comme boucliers pour dire non, on ne veut pas de ça en Mauritanie.
Contre la marche du monde, parce que dans le monde entier actuellement, on est dans cette marche-là.
Oui, non seulement on est dans cette marche, moi je pense que c'est légitime que les femmes également aient droit voilà, participer pleinement à la vie de société, soient considérées comme, on va dire... non, mais soient... joue le rôle pleinement dans nos sociétés. Et oui, on retrouve ces questions-là dans la littérature féminine mauritanienne, ou même de façon générale dans la littérature maghrébine. On va dire, sur cette question, c'est vrai que la Mauritanie, certains conservateurs, on va dire, sont encore réticents, mais je crois que comme tous les pays, nous fonctionnons également, nous marchons à notre rythme propre. De toute façon, moi, je pense que c'est inéluctable. Ces questions-là, tôt ou tard, nous serons obligés de faire avec. Voilà. Les femmes ne peuvent pas continuer à être marginalisées parce qu'elles sont femmes. Je crois que c'est absurde. Il faut rétablir l'équilibre.
Oui, puis on voit bien quand même qu'il y a une ouverture à tout ça, non seulement des femmes, mais aussi des hommes. La preuve, nous avons un homme mauritanien aujourd'hui qui nous dit qu'il est féministe et on le croit.
Oui, féministe, si vous permettez, très rapidement, parce que moi, comme j'ai perdu mon père très tôt. Je n'ai vu que ma mère, qui s'occupait très bien de nous, manquait de rien, et qui était sage-femme, et ensuite qui a joué pleinement son rôle à Rosso, en tout cas, parce qu'elle était première adjointe au maire à Rosso. Donc pour moi, dire que la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est dire que ma mère ne devait pas être sage-femme, ne devait pas, etc.
Elle devait élever cet enfant.
Donc voilà, et je c'est pour cette raison d'ailleurs, d'une part, que je dis que j'assume cette étiquette de féministe. Du moment où le féminisme, c'est de dire stop à la marginalisation des femmes, elles doivent pleinement participer à la vie de la société, oui, j'assume cette étiquette, je suis féministe.
Bon, et du coup, par rapport à la francophonie, justement, qui est un sujet qui vous intéresse, votre rôle, bien entendu, celui des féministes et des auteurs mauritaniens en général. Comment se situe-t-il? Est-ce qu'ils sont toujours dans la même déconstruction par rapport à la francophonie? Est-ce qu'ils valorisent autant leur patrimoine langagier, etc.
Oui, la francophonie, il faut dire quand même qu'elle est problématique un peu en Mauritanie au regard de l'histoire du statut de la langue française en Mauritanie qui est passé de statut de langue officielle à statut de langue d'ouverture. Elle est problématique. Il y a eu, suivant l'évolution de l'histoire du pays, des tensions autour de la langue française, autour de l'arabe, quelle langue pour le pays, etc. Et finalement, aujourd'hui, la langue officielle, c'est l'arabe. Mais la langue française, elle est présente en Mauritanie. Elle est présente en Mauritanie. On la pratique. Moi, c'est ma langue de profession. C'est ma langue de travail. Le français, même s'il y a des réformes politiques qui s'inscrivent dans une logique d'arabisation depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et avant-hier, je regardais une vidéo sur Facebook qui faisait état de l'arabisation de l'enseignement primaire dans le privé. Ils n'ont plus le droit d'enseigner la première, la deuxième et la troisième année qu'en arabe. C'est presque la même configuration qu'au Maroc, en Tunisie, où après les indépendances, il y a une politique d'arabisation à outrance, sans pour autant tenir compte de, je pense, l'évolution du monde, les exigences de notre époque, où il est important pour les enfants de posséder plusieurs langues, de pratiquer plusieurs langues. C'est un atout. Parler une seule langue, je pense que aujourd'hui, un analphabète, c'est celui, à mon avis, qui ne parle qu'une seule langue. Mm-hmm. Parler plusieurs langues, c'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir
au
monde.
Ouvrir, c'est s'ouvrir.
Voilà, épouser d'autres imaginaires. Et en tout cas, nous, en tout cas, à l'université, au département d'études françaises, on s'inscrit dans cette perspective que la langue française, comme le disait Katia Biasing, c'est notre butin de guerre. La langue française est une langue africaine aujourd'hui et la preuve, le plus grand nombre de locuteurs francophones dans le monde sont africains. Donc la langue française, c'est notre langue. Voilà, ça fait partie du patrimoine linguistique, culturel africain. Mm-hmm. Mais quand on politise la question, quand on politise peut-être la question, les gens sont un peu réticents par rapport aux langues nationales. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements, de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut introduire l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif. Et je crois également que c'est légitime, introduire l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif, mais également apprendre le français, apprendre l'anglais, apprendre le mandarin, parce que le monde est grand, le monde est vaste. D'accord. On a besoin de s'ouvrir et la meilleure manière de s'ouvrir au monde, c'est de pratiquer plusieurs langues.
Plusieurs langues.
Tout je crois que ça, c'est fondamental.
Sans compter quand même qu'on en parlait tout à l'heure, on parlait de la francophonie, mais le nombre d'écrivains africains qui écrivent en français, c'est incroyable.
Oui, oui.
Et quelle littérature.
Oui, la littérature
quelle
africaine.
Littérature, on en parlait la dernière fois. Voilà.
Bon, alors on a pris par le temps, il nous reste 4 minutes. Et je te laisse la parole pour que tu nous parles en termes de perspective, comment tu vois à la fois dans ton travail de recherche, d'une part, cette littérature et globalement celle du pays.
Alors, en perspective, moi, comme je l'ai dit, je m'intéresse à la pensée décoloniale, je m'intéresse à la francophonie, je m'intéresse à la langue française, à la littérature francophone, je m'intéresse un peu à la politique, la relation entre la France et l'Afrique. Je crois que la perspective, c'est que nous sommes dans une époque qui exige, si vous voulez, la manière de faire, la manière de se tenir, qui exige notre façon de voir le monde. Nous sommes dans une époque extrêmement complexe où on est au bord de la guerre des civilisations, les identités, où les nationalismes s'assument, où les extrémismes également sont présents. Donc il est important je m'inscris dans cette perspective, d'avoir une approche d'ouverture, de la relation. Parce qu'il est en réalité question de relation. Comment reconstruire toutes ces relations qui sont abîmées par des divergences politiques, par des idéologies, etc. Donc moi, la question de la relation est au centre de ma recherche. J'emprunte cette notion à Édouard Glissant, la poétique de la relation, la philosophie de la relation. Et je pense que c'est fondamental, la relation. Et la littérature mauritanienne, pour faire un lien, la question de la relation est fondamentale dans la poésie d'Ousmane Moussa Diagana. Et dans la réflexion que je suis en train de construire, je parle de la grande et de la petite relation. La petite relation, c'est la relation entre les hommes, entre les humains. Mm-hmm. Ça passe par la femme. Mm-hmm. Et la grande relation, si on arrive à construire la petite relation à travers les femmes, que l'individu puisse s'éjecter des corsets communautaires, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre pleinement, on va dire, son identité, en dehors parfois même du groupe, ça permettra qu'un jeune Mauritanien qui n'appartient pas à la même caste qu'une jeune fille puisse avoir des relations, puisse se marier. Et de là va partir la grande relation. Si on permet la petite relation, on arrivera naturellement à la grande relation. Donc la relation, je pense, est au centre de ma perspective aujourd'hui. Et la relation entre la France et l'Afrique, je le dis souvent, c'est comme entre cette femme et son mari. De temps en temps, il y a des petites histoires, mais au final, ce qui les lie est plus fort que ce qui les désunit.
D'accord. Et puis l'écriture, c'est quand même un lien fondamental, fabuleux aussi.
D'accord.
Hein, l'écriture, c'est une
merci.
Façon de se relier.
Et puis, pour clôturer l'émission, est-ce qu'il y a un dernier message que vous voulez passer?
Mais merci Marie-Claude. Merci pour m'avoir invité, pour cette invitation de parler de
la littérature. Et puis, merci de nous avoir fait cette ouverture. On en rêvait, Jérémy en rêvait, sur la littérature africaine, et de nous avoir ici permis de nous rendre compte combien c'est fabuleux. Et j'espère qu'on on recommencera d'autres émissions comme absolument, ça, sur la littérature. Absolument. Et puis que peut-être Monsieur Sarr, Ndiaye, viendra nous rendre visite à nouveau.
Avec plaisir, avec plaisir.
Il quittera sa Mauritanie natale et il reviendra à Montpellier, à Paul Valéry et ici. Avec voilà, plaisir. Merci à tous.
Merci.
Merci à Yann pour la technique.
Bonsoir à tous, musique.
À bientôt. Wangoi wangade, wangoi wangade, wangoi wangade, wangoleli ya timayani.
You want the sign, let them to know why they're a sub toko you want the fan. Jila under berne baso want the galo madami no nogi. Derimen kewani bindi kono njaw no take gandal mami ami yilo yo som yitum adda ko danya peccen sibodon ne wuro mo run hore heo peje ronke yo gol tawado e nando ni cer jere wala wana kerol to men wanga jele ko hore man fam hakile soko jomum nyene we wadde wamba nam taha setanam kudol be hokkadi bindi kedi don
jarama pentam do mi gol jimol wango e wangade
wango e wangade
wango le liapti mayani
hakti
mere likeden jadene
jamma
jadene
jamma
wango e wangade.